Oui, bonjour, Benet.
Bonjour.
La ceinture.
Moi aussi, je vais faire la
ceinture. Ah, la ceinture.
Dans la voiture. J'ai la même, tu vois, ça fait une bande.
Oui, mais
ça.
On est salis ou quoi? Il y a un souci?
Non,
non, mais je comprends pas pourquoi j'avais de la perle.
C'est tellement que c'est un truc qui est...
Bah, je pense que c'est la ceinture.
Oui, la ceinture de sécurité.
Ah oui, d'accord.
Ça marche. Bonjour, soyez les bienvenus.
Merci. Bonjour.
Moi, je m'appelle Angèle Adandétien.
Oui, tu quoi?
Je serai votre guide durant la
ça, vie. Le nom déjà dit beaucoup. Le nom Adandétien, qu'elle va commencer par nous décrypter.
Ah, tout de suite là.
C'est Adandétien, ici à Abomey. C'est une famille qui a un rôle donné dans le truc là royal. Dans le système royal. Les Adandétiens, oui. Et donc, vous allez constater que n'importe qui ne va pas vous amener pour vous faire la visite. Ça doit être un fils ou une fille, ok, descendant du royaume.
Ah, oui. Ouais. Ah, bon, on est très honorés.
Donc, soyez les bienvenus. Je serai votre guide durant la visite. Et nous allons visiter deux palais. Le palais du roi Glélé, celui du roi Gézou.
Ben, je croyais que tu allais nous faire bénéfice de trois palais.
Non.
Pourquoi? Parce qu'il fait chaud.
Il fait chaud. Parce que la majorité des palais sur le site se trouvent en ruine et d'autres en restauration. Mais les rois avaient fonctionné d'une manière où tous les palais dans le temps avaient même forme et même structure architecturale. Même si les palais se trouvent en ruine, la visite d'un seul palais peut nous donner l'idée du reste. Là, c'est l'entrée principale du palais de Glélé et ça donne accès à cette première cour de palais, pareil pour tous les autres palais aussi, qui servait de lieu de rassemblement. On démarre la visite par ce bâtiment, la salle de réception des étrangers. À l'intérieur, là, on va parler de la civilisation fond du plateau d'Abomey, l'origine des rois, la devise du royaume et l'étendue, et tout ceci à travers des objets que les rois nous ont laissés comme témoins de leur existence. Et je dois vous rappeler que le Dan Romain a été un grand royaume, surtout un royaume guerrier, qui a duré 300 ans, sa monarchie a duré 3 siècles, de 1600 à 1900. Et durant cette période, de façon officielle, 12 rois ont dirigé le royaume. Et c'est une règle de succession au trône de père en fils. Mais ce n'est pas nécessairement l'aîné qui devient roi. On fait appel au devin qui consulte pour le roi la science divinatoire que nous appelons le Fa. Le Fa, c'est la géomancie. C'est une science. Et à travers ce Fa, on désire le prince héritier parce que les rois ont vu que le Fa est le seul moyen qui achevante le monde visible dans lequel nous sommes et le monde invisible où se trouvent les ancêtres. Pour la prise de toute décision importante, le roi doit consulter le Fa. Donc pour la désignation du prince héritier, il consulte au Fa au nom de tous ses enfants et c'est celui que le Fa choisit qu'on prend maintenant. Parce que tout le monde n'est pas né pour être chef. Et dès que le choix du prince héritier, le roi doit organiser une grande cérémonie pour présenter ce dernier au peuple. Et après sa présentation, maintenant, le roi le sort du palais officiel et il va lui attribuer un domaine dans la ville. Et au niveau de ce domaine, il fait construire son palais princier. Il réside là jusqu'à la mort de son père. Ou après son intronisation maintenant, le nouveau roi va intégrer son palais officiel de gestion qui sera érigé à côté de celui de son père. C'est pour ça qu'on dit Abomey ici, cité historique, parce que tous les quartiers issus à Abomey sont liés à l'installation d'un prince héritier. Parce que dès qu'on lui donne domaine, il construit son palais. Autour de lui maintenant, il fait fonder ce domaine, donc fait développer le domaine qui lui est attribué. Nous partons pour 45 minutes, voire une heure de temps, s'il n'y a pas de grandes préoccupations.
On va poser beaucoup de questions. Hein.
Oui. Ça ne me gêne pas.
Donc, les amis, on va poser beaucoup de questions. Guy Adonon est où? C'est une question que je t'ai.
Guy Adonon. Il doit être quelque part là où vous allez l'appeler.
Donc, d'accord, je vais continuer quand même. Parce qu'après, nous allons faire 2 ou 3 interviews à des personnes que j'ai identifiées comme ça.
Ok.
Voilà. Donc, vous si allez tu as des gens à qui tu peux nous dire, ben, pour telle préoccupation, je vous recommande telle personne. D'accord. C'est à toi de nous dire.
Okay, mais il faudra aller récupérer le matériel d'abord.
Oui, là,
non, là après la visite. Après la visite, quoi. On peut interviewer avec le matériel. Okay. Mais il y a des objets que...
Oui. Il y a une famille royale encore à Beaumet.
Oui.
Est-ce que elle vit dans le palais? Comment elle tient audience?
Oui.
Quel est le lien entre le palais et la famille?
Il y a une famille royale.
C'est trop beau.
C'est l'ancien roi, si on peut l'appeler l'avant-dernier roi, celui qui est parti récemment. Lui ne vivait pas dans ce palais. Il a son palais princier de son ancêtre qui est au cœur de la ville là-bas. Il vit là. D'accord. Là-bas. Mais lorsqu'il a des cérémonies à faire, en honneur de l'esprit des anciens rois, ou des cérémonies liées à la tradition qui nécessitent sa présence ici, il vient les organiser ici. D'accord. Si il doit recevoir des gens qui lui demandent que tu vas nous recevoir dans le palais de gestion, il vient ici. Parce qu'après tout, nous sommes déjà dans une république, il ne peut plus avoir de royaume. Mmh. Mais pour la pérennisation de la culture, on est obligé d'avoir un roi parce que ce qui concerne la tradition, le chef d'État n'a pas les attributs pour le faire. Il ne pourra pas jamais introniser un nouveau roi. Il ne pourra jamais introniser les chefs de collectivité, les chefs en fait, des prérogatives du roi. Mais le nouveau roi actuellement, qui a investi dans ses fonctions en janvier passé, est sur le site actuellement.
Mmh. Ah d'accord.
Oui. Il est au niveau d'un bâtiment construit après les murets que vous voyez là, qu'on a dénommé le conseil d'administration de la famille royale, CAFRA. Il est là. Il reçoit les gens. Mais c'est sur demande d'audience. Parce que d'abord, on ne va pas chez le roi les mains vides. Donc, ça se prépare, on demande de l'audience. Non, lui, il est là actuellement.
En tout cas, ça veut dire que le palais, il est encore actif.
Il est encore actuel, il est fonctionnel. Du 1er avril au 9 passé, on a fait des grandes cérémonies en honneur de l'esprit des anciens rois ici, où c'était bien organisé. Le nouveau roi immolait au moins 7 bœufs pour dans le but de demander aux esprits d'accepter son arrivée, de l'aider dans l'exécution de la tâche qu'il lui a confiée.
Dans les maisons, on parle de, pour les cérémonies de regroupement, comme ça, on parle de kaklekle. Et pour le roi, quel est...
Pour le roi,
comment on l'appelle?
On parle de kamevo.
Kamevo. Ah d'accord. C'est bon.
À chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, les autres palais, ils étaient désertés alors.
Non, ils n'étaient pas désertés. Le nouveau roi même des guillemets, ceux qui étaient les collaborateurs de son père, dans l'ancien palais. Et il a toujours une porte qui relie les deux palais. Lorsque le nouveau roi est en difficulté de gestion, il n'a pas besoin de prendre par l'entrée principale avant d'aller sur la tombe de son père. Parce que ici, on croit à l'esprit après la mort. On croit à une vie. Donc lorsqu'il est en difficulté, il y a un bâtiment qui est construit pour abriter l'esprit de l'ancien roi, donc l'esprit de son père. Il y a la tombe de son père qui est là. Il peut aller sur la tombe, demander la clairvoyance, l'accompagnement de l'esprit de son père dans sa difficulté. Donc l'ancien palais n'est pas totalement abandonné. Mmh. Exposition les différents sièges royaux, les trônes des rois. Et sur ces trônes, les rois s'asseyaient pour la gestion du temple. Tous originaux, à l'exception du premier, là, celui du roi Gagné Fesson. Ou selon l'histoire, c'est un roi qui n'a pas régné, mais il a été intégré au rang des rois par la famille royale. C'est pour ça que son premier défi. La monarchie du Dankoumé a connu 12 rois, mais il manque quelques trônes ici. Il y a un trône de Dakodono de Pingla qui a été déplacé pour une expression temporaire. Trône de Gézé de Akolé, à gauche, se trouve dans d'autres bâtiments qu'on va visiter après.
et ces objets au milieu sont en métal. Et c'est des objets d'origine yoruba que pendant les conquêtes, les rois sont allés à la découverte de ça, ils ont ramené dans la tradition ici, qui représente l'esprit des défunts, l'esprit des morts. Les rois n'ont jamais vu ça. C'est après leur mort qu'on a réalisé chaque hôtel dans le but d'abriter l'esprit de ce dernier. Pendant les cérémonies, ces hôtels servaient de lieu d'intermédiaire ou de communication. Lorsqu'on dépose de petites quantités de nourriture, de boissons sur le plateau de chaque hôtel, cela crée une communication entre les vivants et les morts. Mais pendant ces cérémonies, on les déplace d'ici. Et on les installe à côté du temple, au niveau de la cour intérieure.
Comment on les appelle?
Les hôtels portatifs ou à saint, enfin. À saint.
Vous les déplacez tous en même temps?
Une à une. Un à un.
Mais tous
oui,
se retrouvent au même endroit.
Oui, se retrouvent au même endroit parce que autant qu'ils sont, c'est pour l'esprit des anciens rois.
D'accord.
Donc on ne peut pas faire l'esprit. Ce qui fait la différence, qui permet d'identifier, c'est si les cérémonies sont organisées plus précisément en honneur du roi Zélé, par exemple. Lorsqu'on va installer les hôtels, c'est son hôtel qui est en première position, les autres vont suivre.
D'accord.
Donc celui à qui la cérémonie est dédiée plus, c'est son hôtel qui est là, en première position, on installe maintenant toujours debout les autres à côté. Maintenant, lorsqu'on a pris l'option de les mettre tous ensemble, dans le but d'identifier à quel roi l'hôtel est dédié, on les a surmontés maintenant de l'emblème de chaque roi. Les rois n'ont pas connu l'écriture conventionnelle. Et à travers ces symboles que vous voyez, ils arrivaient à s'exprimer. Donc chaque symbole a une explication, mais on ne pourra pas tout expliquer. Et en bas, vous avez les noms forts des rois et leur durée du règne. Ces noms forts sont issus des circonstances des difficultés d'intronisation que le roi a eu à rencontrer avant son intronisation. À partir de ce nom, au moment où le roi choisit ce nom, il fait définitivement son nom de naissance au détriment de ce nom. Donc vous avez les durées du règne également qui correspondent à la mort du roi. Mais le début n'est pas durée de vie. Là, c'est juste la durée du règne. Donc vous pouvez procéder au choix de quelques symboles qui vous intéressent.
Celui-là, c'est le fondateur de la numérologie.
Donc.
Oui. C'est quoi la différence entre ceux qui sont ouverts comme ça et ceux qui sont fermés?
Ceux qui sont fermés, ça c'est les deux du début. Vous voyez qu'en évoluant, l'artiste a toujours tendance à mieux faire. C'est les deux premiers hôtels qu'on a découverts typiques et ils les ont fabriqués. Mais après, tout ce plateau représente en quelque sorte le peuple décédé. Donc le peuple est en communion avec l'esprit du roi.
Donc les sculpteurs, en fait, ils ont une vraie part de création,
oui,
à chaque fois.
À chaque fois, oui.
C'est pas
en améliorant toujours le travail artistique.
Mais il y en a qui savent qui sont des artistes. Mais il y en a qui s'ignorent complètement qui sont des artistes.
Oui, vous m'avez posé la question si c'est un reste ou le fondateur. Non, il n'est pas le fondateur du Dan Koumé. Celui qui a fondé le Dan Koumé, c'est le roi Wegbadia. En 1645. Mais Gaïn Reso est le père de Wegbadia. Il y a la carte de la migration de l'autre côté. Dans la migration, Gaïn Reso et Dakodo, les deux premiers rois, sont tous même père. Ils étaient avec leur père d'Obaglin quand ils ont quitté Alaga pour venir à Abomey à s'installer à Waoué précisément. Donc à la mort de d'Obaglin, Gaïn Reso étant l'aîné est reparti à Alaga pour subir les étapes d'intronisation. Mais avant son arrivée, Dakodo, son frère s'est fait déjà roi. Les deux ont usurpé en quelque sorte, le petit a usurpé le trône de son grand frère. Mais dès son retour, il n'a plus voulu discuter le trône avec son frère. Maintenant, mécontent de l'acte de son oncle à son père, c'est le fils de Gaïn Reso, celui qui est en première position là, c'est son fils qui est en troisième position. C'est lui qui va quitter Huawei. Il viendra faire armée aux autochtones ici, les Bébili. Par alliance et par ruse, il va fonder maintenant le royaume de Dako. Et c'est plus tard qu'il a décidé d'intégrer son père au rang des rois, mais il n'a jamais rien. C'est pour ça qu'il n'a pas de durée de règne. Donc, véritablement, le Dan Koumé s'est fondé, cette station, en 1645. Mais nous remontons avec la migration vers les années 1600, c'est pour ça qu'on dit 1600-1900. Mmh.
Et donc, on mettait de la nourriture, vous disiez, sur les plateaux. Oui. Et ça, c'était lors des cérémonies, c'était tous les ans
ou oui, tous les ans, au moins deux fois par an.
Deux fois par an. D'accord.
Juste une petite précision, vous dites que c'est pas les années de... C'est les années de règne, mais ils sont pas forcément morts, par exemple, en 1645.
Oui, les morts, mais la fin, c'est la mort.
Ah, la fin, c'est la mort, c'est déjà
compris. Parce que dès que vous accédez au trône, non, c'est une gestion à vie.
Ah, ok, ok, c'est bien ça que j'avais compris.
Oui, oui,
c'est une gestion à vie.
Comme vous, c'est un président, oui, mais... tant que tu dois changer la constitution...
Non, vous voyez, chaque fois, la fin... Et le début de l'autre,
oui, ça, donc,
parce que dans la tradition, au plus dans les 112 après le décès de roi, automatiquement le nouveau est là, voilà. Parce que le nouveau, le successeur est déjà connu, donc
oui,
automatiquement...
Et il y a l'apprentissage de gestion oui, avant que l'autre...
avant que l'autre n'aille, donc automatiquement, il est intronisé et c'est trois lunes après qu'il va s'en charger d'organiser maintenant les cérémonies funéraires de celui qui est son père.
Ouais, il prévoit que c'est tel fils ou telle personne qui sera son successeur.
Déjà pas le fa,
ouais,
on
le
choisit.
Ah, le fa, voilà. Oui. Mais il attend de mourir avant que l'autre...
Oui, 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 il attend de mourir.
C'est bon.
Donc, on fait.
C'est pas qu'il dit.
Il y a tout le monde, il va te dire.
Il y a tout
le monde. Eh oh, Christian, c'est un humour, là. C'est le humour de Christian.
Mais Clo-Clo avec moi.
Oui, oui. Il va continuer, il va aller me voir. Si je ne le vois pas,
il est là.
Même en même temps. S'il n'est pas là, ça veut dire que... il voyage beaucoup aussi.
Il voyage beaucoup.
Oh, ça c'est magnifique.
Là, vous avez le tableau synoptique. Quand les Occidentaux nous disent qu'on n'a pas d'histoire, on n'a pas de civilisation, jusqu'à la preuve du contraire, nous disons toujours non.
Non,
je ne dis pas ça. Quand je parle d'Occidentaux, ce n'est pas vous devant moi. Donc au moment où il y a des événements qui se déroulent...
Peut-être les explorateurs et puis les ethnographes, qui, les tout premiers...
Oui, les tout premiers. Voilà, au moment où il y a des événements qui se passent dans le Dahomey, pareil, dans le monde entier, en Afrique, il y a d'autres événements qui se déroulent. Donc Bagui s'est installé à Huawei en 1620. Et en 1622, il y a la fondation de la future New York par les Hollandais. Donc il y a des événements similaires qui se déroulent. Donc ce n'est pas une période tout à fait inconnue, ce qui fait le défaut de l'Afrique... C'est l'écriture, laisser les traces des événements dans les documents qui a été son véritable défaut. Il y a beaucoup d'événements qui s'étaient déroulés. C'est pour ça, quel que soit ce qu'on dit, la tradition orale demeure incontournable pour la reconstitution de l'histoire du continent, de façon générale.
Bien sûr.
Les Occidentaux ont quand même beaucoup perdu aussi par, à travers l'écriture,
oui.
Parce qu'ils ont oublié cette tradition orale.
Orale, oui.
Alors qu'il y en avait quand même une aussi.
Il y a eu des difficultés.
L'écriture, c'est bien, mais c'est pas la panacée. Ah, c'est magnifique.
Là, vous avez été à Béanz.
Oui.
La position du 12e roi.
Oui. Faisak Nyebamidéa.
Comment il s'appelle déjà?
Ah, d'accord. Deuxième roi, c'est Aboliago.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et comment. Quelle est sa position dans l'histoire du Dahomey?
Il est le dernier roi de la monarchie, mais il a été intronisé avec la présence française.
C'est ça.
Donc.
Il est légitime malgré tout?
Oui, on le considère. Oui. Sinon, il n'a pas été légitime en tant que seul. Tel, il n'a pas été choisi par le FA.
D'accord.
Mais il a assumé les pouvoirs. Parce que Aboliago, c'est le frère de Bien, c'est tous deux enfants de Glen. Et qu'il était son chef d'état-major. Et ici, on a la représentation de Panthère, qui est considéré comme le totem de la famille royale, l'ancêtre mythique des rois du Dahomey. Selon la légende, on rapporte que la Panthère, étant un animal, a eu des relations avec la fille du roi de Ta, de la princesse Aligoune. Et de cette union est né un enfant garçon qu'on appelle Agassou, qui est devenu grand, eu des enfants. Ce sont ses descendants, appelés les Agassouvi, qui vont migrer de Ta. Et dans leur migration, ils vont fonder trois royaumes au sud du Bénin actuel. Et voici le parcours migratoire des descendants de la Panthère.
Ça, c'est l'original.
Nous voici à Diatado dans le sujet du Togo actuel. Quand les descendants ont pris le chemin, ils vont traverser d'après des camps et des domaines pour venir s'installer à Lada ici.
À Lada, là où Marwan a identifié là. Mmh. En fait, c'était un lieu de carrefour pour eux tous qui ont quitté Lada 2.
Et après l'installation à Lada, des querelles de succession vont s'éclater encore entre eux à la mort de leur chef Fodo et Adjaruto. Trois frères se sont levés pour se séparer. L'aîné des trois est resté à Lada, on l'appelle Mendi ou Kopon. Il va restructurer, fonder le royaume d'Alada. Té Agbani, le cadet, après l'avoir su d'Alada, il va fonder Khorbonu, Porto Novo. Donc, Bagné et ses deux enfants vont migrer du nord d'Alada pour venir à Wawi d'abord. De Wawi, Wigbadia viendra fonder le Tanhomi, ayant pour capitale Abomey. Abomey, Alada, Porto Novo, ce sont trois royaumes frères qui ont tous quitté Tado et la planté leur ancêtre mythique. On utilise ce tabouret pour introniser les rois et les rois dignitaires du Tanhomi, Katate. Durant les étapes d'intronisation d'un roi, on doit le faire asseoir là. Devenu roi, il peut avoir son propre trône comme ce qu'on a vu dans l'autre salle. Mais chaque roi avait son tabouret d'intronisation. Parce que la façade doit être greffée au signe géomancique du roi qui doit l'utiliser. Comme tous n'ont pas le même signe, le tabouret demeure alors individuel. Ce qui est devant nous est attribué au roi.
Et le signe correspond à une divinité.
Non, à un signe de Fa. Le Fa n'est pas le vaudou. Le Fa, c'est la science divinatoire. C'est comme la cartomancie. C'est des lectures de signes. C'est comme l'horoscope. Vous comprenez? Ou tu es Verseau, moi je suis Gémeaux. Tu es Capricorne, l'autre est Lion. Vous comprenez? Donc c'est pareil aussi. Les 12 signes zodiaques que nous avons, les actes dans le Fa. Où c'est individuel.
Et ça, c'est le côté géomancique.
C'est le côté cosmogonique. Oui. Donc là, le signe est représentatif à travers ça. Si ceux qui ont la connaissance de ces signes arrivent maintenant, ils peuvent vous interpréter, décoder ce qui est là. Mais moi, je n'en ai pas
connaissance. Ça, c'est un signe ou c'est un groupe de signes?
Ça, c'est un signe.
D'accord.
Vous observez bien le schéma qui est là. Quand on va retrouver le tableau de Benzène maintenant tout à l'heure, vous allez voir que ce n'est pas le bon schéma.
Et on a vu que les rois, ils avaient des animaux symboliques et ils ont des sortes de blasons. Enfin, on appelle ça blason, mais ce n'est pas le terme approprié. Est-ce que ces animaux symboliques ont un lien avec le Fa? Quand on voit par exemple le caméléon
Non, pas les animaux n'ont pas un lien en tant que tel avec le Fa, mais ça dépend.
Les animaux n'ont pas de lien
avec le Fa. Non.
Ça c'est
seulement que là, c'est des liens peut-être avec les divinités.
D'accord.
Ce que les Occidentaux préfèrent appeler le fétiche là.
Ouais.
Ils ont des liens avec les divinités. Fétiches. Quand nous prenons le caméléon par exemple, cette divinité de la richesse, c'est Lisa. Comprenez, il y a une divinité, la concielle, le serpent qui meurt, sa queue, c'est une divinité, mais il y a un serpent qui marque la continuité de la vie. La vie, elle est continuelle.
Ce qu'on a identifié sur la route des esclaves, là. Vous avez vu les symboles, les claquements, voilà, exactement.
Ici, nous avons une lame de roue qu'on utilise comme moyen de percussion pour chanter les gloires du chef. Et là, ça a été utilisé par les autochtones. C'est eux qui pratiquaient ceci avant l'arrivée des rois. Et quand les rois sont venus pour montrer leur domination et leur suprématie, eux, ils ont transformé la lame de roue en un gant géminé, en une crochette. On utilise ce gant pour glorifier les rois du Tanhomi jusqu'à présent.
Okay.
L'homme qui exécutait la lame de roue pour les autochtones appelé Pan, la lame de roue en foi à Lingan, le gant géminé et gant. Ils ont contracté cet homme pour donner Pan Lingan. À l'utilisateur du grand géminé qui chante les gloires des rois jusqu'à présent. Un grand oiseau qui saisit un petit ronronnet. Cette représentation montre l'ambition et la puissance des rois du Tanhomi. Le grand oiseau représente le Tanhomi pour son expansion et son agrandissement. Il doit conquérir alors les autres royaumes ennemis symbolisés par le petit oiseau. C'est la loi du plus fort. Le roi Wigbadia, le fondateur du Tanhomi, a compris très tôt que lorsque vous avez un groupe à gérer, il faut lui instaurer des lois, des bonnes marches pour la règle de vie. Et c'est comme ça qu'il a doté le Dankoum d'une constitution composée de 41 lois. L'ensemble de ces lois est dans un livre, en vente dans la boutique Souvenir. La première était la devise. Je cite, « Faire du Dankoum un royaume toujours plus grand. » Fin de citation. Donc l'agrandissement du royaume, l'esprit expansionné doit alors dominer tout nouveau roi incronisé. Et c'est cette devise qui est représentée là. Et en travaillant pour l'atteinte de cette devise, vous avez là l'étendue du Dankoum avant l'invasion française.
Là, on est en 1645, c'est ça?
En 1645, environ 1650. Le Dankoum part de l'océan Atlantique au sud, où ils ont fait des conquêtes jusqu'à la hauteur des pays marqués. Ils n'ont pas dépassé Savalou et Savo. Dans le nord. À l'ouest, le Dankoum est limité par les pays indiens. À l'est, il fait quoi avec les pays Nango-Yoruba. Mais de ce côté de l'est, actuellement, ils se sont basés sur les frontières pour la réalisation de ceci. Sinon, le Dankoum a fait la guerre jusqu'à Béokuta, dans le Nigeria actuel. Tout cet espace que vous voyez était sous le contrôle du Dankoum, à l'exception de Port-Novo. Quand Dankoum voulait dominer son frère, Port-Novo était déjà sous protectorat français. Port-Novo n'a pas été conquis. Mais le grand frère d'Alada a été conquis en 1724. Trois ans après la conquête d'Alada, le roi Ngadi a envoyé les Amazones, les femmes guerrières du Dankoum, pour la destruction du royaume de Savi, dans le but d'avoir libre accès à la côte de Nida, dans le cadre du commerce avec les Occidentaux. Lorsqu'on quitte Abomey avec les prisonniers de guerre, on fait Abomey à Alada, Savi, Nida. Et à la côte, les échanges se font lieu. Et ceci correspond à peu près au sud du Bénin actuel. C'est lorsque les Français ont dominé toute cette portion que gérait le Dankoum qu'ils ont continué leur conquête vers les autres royaumes du Nord. En les conquérant, ils les ont annexés à ceci pour nous former la colonie du Dahomey. Et c'est Dahomey qui est devenu plus tard le Bénin. Vous comprenez? Quand nous parlons du Dankoum, on parle du royaume qui a duré 300 ans. Mais lorsqu'on parle de Dahomey, on parle du pays qui est devenu le Bénin. Donc il y a une différence. Et c'est la francisation du Dankoum qui a donné en fait Dahomey, compte tenu de la résistance du roi Béhanzin à l'installation française. Où ils ont voulu donner le nom du royaume à toute la colonie, mais ils les ont francisés. Oui, allez-y.
Donc, en fait, ça s'écrit D-A-X.
Voici Dahomey. Voici Dahomey. Mais Dankoum, c'est D-A-N-I-S.
Oui, c'est ça.
O-M. E comme ça. E, j'en trouve. Ça, c'est l'alphabet font ça. Mais pour les écrire en alphabet français aussi, nous mettons E à 100 graves seulement à la fin.
Ça, ça donne que la carte, elle est peut-être en quelle année?
La carte, c'est une carte récente qui est faite à partir de l'ouvrage de Maurice Aranzoglaire.
D'accord.
Le Dankoum. Du pouvoir déjà à la nation du Dankoum.
Ça, c'est au 19e siècle, j'imagine. C'est à l'époque de.
C'est à l'ouest. C'est à côté.
Nous avons ici la carte d'extension de la ville d'Abomey. La ville est ceinturée par des fossés d'anciens Agbodo, des remparts pour la sécurité du palais, des grands fossés ayant des profondeurs de 7 à 8 mètres avec des largeurs de 4 à 5 mètres. Ou tout autour de ça, c'est les arbres et les animaux qui sont à l'intérieur. Vous pensez que c'est des espaces libres. Vous allez prendre par là pour venir attaquer les palais. Vous tombez dedans et les animaux font la fête avec vous. Voici l'ensemble du site des palais royaux qui se trouve à l'intérieur des fossés entourés des différents quartiers principaux. Si on dit à l'intérieur des fossés, veut dire en fond Agbodome. Agbodome était la capitale du Dankoum. Dès l'arrivée des colonisateurs, ne pouvant pas bien prononcer Agbodome, c'est ça qui est devenu Agbome. Et de Agbome, nous sommes dans Abomey aujourd'hui. Donc Abomey veut dire littéralement à l'intérieur des remparts. Agbodome.
Ça, c'est du fin de code.
Une base de connaissances, hein. C'est une base de connaissances qui est consultée et on fait quoi que ce soit.
Le FAF a te dit peut-être tu vas y aller, mais peut-être tu vas surmonter des difficultés. Alors, si tel est le cas, qu'est-ce que je peux faire pour alléger ou quelles sont les difficultés? C'est des difficultés liées à ma famille, liées à la profession, liées au service, liées à ma petite famille, les enfants. Ou là, le FAF te dit.
Là, c'est une prospection
c'est
carrément.
C'est une prospection carrément.
Où, on se base sur des gens qui ont déjà eu à exercer ce type de métier. Dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, et que ce que tu veux faire, et on arrive à capitaliser ces connaissances, leurs expériences, et sur la base de cela, maintenant, on te dit, voici l'éventualité qui t'attend lorsque tu veux, par exemple, pour l'exemple qu'elle a eu à donner. Ouais. Le vaudou, c'est de la spiritualité. Le vaudou, c'est de la spiritualité.
Le phare n'est carrément une science. Vous savez, là, ce que je
conseillais,
la cartomancie, où les gens font l'étude de la mer et autres, c'est pareil. C'est des sciences. Oui, il y a des gens qui ont été formés, tels que vous êtes, si vous décidez, on peut vous former dans ce sens. Et là, il y a même un livre là-dessus, c'est des sciences de signes. Là, si tel signe sort, on sait l'interprétation que ça donne, oui. Si vous avez déjà connaissance.
Mais
et si ça a besoin des rituels,
il y a...
Et là, on vous fait des rituels dans ce cadre. Je dis, est-ce que dans 5 ans, j'aurais pu avoir d'enfants encore? Le femme va me dire. C'est comme vous faites l'échographie chez vous. Dans le temps d'ancien, c'est femme qui était l'échographie ici. Lorsqu'une femme tombe enceinte nouvellement, on demande aux femmes... Quelle peut être la condition de l'évolution de la grossesse? Vous voyez? Et là, le phare dit, à un moment donné, on consulte encore le phare pour voir les conditions de naissance de cet enfant. Est-ce qu'il y aura l'accouchement difficile ou c'est l'accouchement facile? Le phare dit tout ça. Et s'il y a des rituels à faire pour rendre cela positif, parce que tout n'est pas négatif, tout n'est que positif dans le phare. Il y a des aspects négatifs. Mais s'il y a des aspects négatifs, on demande encore au FA qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger. C'est le FA qui donne encore ce que vous devez faire pour corriger. Le comportement tenu. Et là, on corrige. La femme, elle, dès que l'enfant vient encore maintenant, on consulte le FA pour voir parmi les ancêtres décédés, lequel est revenu par le biais de cet enfant. C'est ça que nous appelons Djoto.
L'incarnation.
L'incarnation.
Parce qu'on se dit que, bon, voilà, telle personne incarne telle personne.
Vous comprenez? Et là, on consulte, si vous avez déjà fait avec celui-là, vous allez constater que cet enfant, au moins à 70%, aura le même comportement que celui qui n'y est.
Donc voilà un peu ce qu'on regarde.
Maintenant, cet enfant, quelle peut être son évolution, son aura, son éclat? On consulte encore le FA. S'il y a des rituels à faire, on les fait. C'est aujourd'hui que nous ne taillons plus trop d'importance à cela avec la floraison des religions étrangères où tout le monde dit aujourd'hui FA c'est fétiche, FA c'est divinité. Non, c'est tout à fait une science. Moi j'y crois. C'est tout à fait une autre science. Mais une chose est dite avant d'avoir le résultat.
Mais c'est très populaire. C'est
populaire.
C'est populaire. Si vous voulez, on peut vous renvoyer, lui indiquer le dadi, ça qui est là,
c'est
qui est un grand prêtre de FA,
le roi
Guézo.
Il est là.
Et là, c'est son descendant. C'est pas le Tissa premier,
non, non,
c'est son descendant. Ou le nom, c'est celui qui a consulté le FA pour le Guézo qui s'appelle Tissa. Il est de la lignée, il a été formé pour ça. Il y a Kofi Aza qui est là, qui est un grand intellectuel, et il a l'école de son de FA, un professeur d'université. Il consulte en plus, vous voulez avoir beaucoup de connaissances dans ce domaine. On peut vous le dire. Peut-être que vous êtes là pour engager maintenant une recherche. Vous pouvez juste consulter, cependant, dans ces jours, on aura de l'assez facile pour aboutir à nos résultats.
Et alors, c'est des personnes spécifiques qui...
Oui, tout le monde.
C'est des féticheurs ou c'est distinct des féticheurs?
C'est différent des féticheurs.
Ils s'appellent comment le...
Ils s'appellent en fond Bokon, où on les appelle les prêtres de Fa ou les divinatoires. Le devin.
Le devin.
Le devin. Ou bien le prêtre de Fa. Mais en fond, on l'appelle Bokon. Et celui qui consulte le Fa peut ne pas pratiquer les rituels.
Oui. Et Babalao, c'est quoi alors?
Babadafo, ça c'est dans le Nigeria. C'est
toujours la même chose.
C'est la même chose.
En Yoruba.
Mais en Yoruba.
Ah, parce que nous, ce qu'on avait vu, c'était Babadafo.
Le Babalao, en réalité, c'est le.
C'est Babalao. Ça, c'est lié au culte Gungun.
Gungun. Voilà, mais dans leur truc là, c'est la personne qui détient, par exemple.
Le grand savoir.
Le savoir.
La connaissance. Dans un domaine dominique.
Un professeur d'université.
Il est Babadafo.
Il est Babalao dans son domaine.
Dans le FA, il faut forcément poser une question.
Oui, tout part d'une question. Mais pas des questions confuses.
Tout part de l'étonnement plutôt, j'allais dire.
Hein? On ne peut pas aller devant la personne et puis.
Il va deviner.
Il va dire quelque chose.
Non, il va essayer. Là, on ne va pas peut-être. Parce que vous, en tant qu'individu, veuillez m'excuser le terme, hein, vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de soucis. Vous voyez. S'il va se mettre à tout,
non,
il ne pourra pas. Mais il faut que votre objectif, une question bien orientée. Vous pouvez dire, vous êtes une mère de famille. Je suis venue consulter pour l'avenir de mes enfants. Tout simplement.
D'accord.
Mais au Niger, il y en a qui, sans question, sans rien.
Oui, sans rien.
Là, il te trouve, il commence
à vous parler. Et là, vous allez vous retrouver dedans. Hein. Il y a des gens qui réussissent ça.
Il y en a, ils te disent, tu viens de manger si tu as fait ci, tu as fait ça. Et après, si tu ne sais pas faire en sortant, tu vas croyer ton pied gauche contre ton pied là. Il te dit presque tout. Quoi. Et à la limite, à 90% près.
Tu vas te retrouver dans tout ce qu'il va te dire.
Est-ce que c'est infaillible ou est-ce qu'il y a une marge d'erreur?
Oui, il y a toujours une probabilité
de
comme dans toute science d'ailleurs. La science n'a jamais été exacte, sinon on ne sera pas en train de chercher et d'évoluer.
Vous considérez que c'est une science?
C'est une
pas
considération.
C'est une science. Ne pas avoir une vision positive.
Non, monsieur. J'arrive avec mes présupposés.
Non, c'est normal qu'elle s'interroge.
Non, je suppose que c'est parce que
la réponse
vous n'aviez pas. Vous n'avez pas peut-être la connaissance de ce qu'on est en train de dire,
oui,
que vous êtes en train de poser.
L'interface sur laquelle vous mettez pour faire la lecture.
Oui, on arrive avec ses présupposés, puis voilà.
Non, ce n'est pas des suppositions, c'est des signes de 16 fois 16.
Ça fait
256 signes dans le FA. Et là,
lorsque... Bon, là, maintenant, on passe du FA, hein.
On ne parle pas. Non, je vais lui donner le numéro de Da, il va vous amener chez Da après. Et là, peut-être s'il est à Bomé, ça marche. Dans le cas contraire, vous allez le retrouver à Koko.
Je crois que les bouddhistes, c'est pareil. Ils disent qu'il y a 256 personnalités différentes.
Si, les bouddhistes le disent, chez les Japonais, il y a aussi une sorte de pratique qu'ils appellent le Ba, basée sur les mêmes choses, le Ba. Et c'est ça que Nonaka et Takushi ont utilisé pour pouvoir développer la notion du commerce attribué à Toyota. Ah oui, oui, si, si. Et en temps après l'informatisation et tout, le japonais, le géant japonais Toyota a connu. Voilà, donc.
La cour intérieure.
Du Allez, on reprend parce que sinon.
Du roi Glele. Et vous avez juste devant vous là-bas le petit bâtiment, c'est le temple du roi Glele. Construit pour le repos de son esprit. Il n'est pas enterré là. Et le mur original à l'intérieur de ce que nous voyons là, ceci est fait dans le but de sauvegarder l'original intérieur. Et lorsqu'on a rassemblé la terre pour construire le mur original, on a dû ajouter le sang de 41 prisonniers de guerre, l'eau de mer, éclats de poterie, des coris, des raffias, des bijoux, des pelles, tout ce qui a de valeur pour le roi, tout ce qui constitue sa richesse. L'ensemble avec la terre et l'eau, on a mélangé pour construire ce temple. Dans le but que lorsque l'esprit du roi viendra se reposer, il sera entouré de ses richesses. Les hôtels portatifs qu'on a vus là-bas, les assins, pendant les fêtes, on les déplace, on les installe à côté du temple.
Est-ce que c'est là où il y a le sol, c'est des crânes? Parce qu'on lit ça dans les textes. Dans les textes anciens qui ont été publiés au XVIIIe siècle, il disait qu'il y avait un temple.
Il y a des rois qui étaient. Leur trône se repose sur des têtes de prisonniers de guerre.
Oui, c'est ça.
Si, 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 si. Il y en a certainement qu'on va visiter.
Oui, il y a le trône de Gezo qui est là, qui est sur les crânes. Au départ, oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est vérifié. Parce qu'avant, on sacrifiait les hommes pendant des cérémonies telles de ce genre. Où les crânes sont déposés représentant l'esprit de ces personnes qui vont
comme
accueillir l'esprit du roi pour le servir, toutes les fois il sera dedans. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cela.
D'accord.
Les animaux ont pris la place des hommes. C'est pour ça que lorsqu'on finit les cérémonies, on dépose les ossements d'animaux.
D'accord.
Dans le but que l'esprit du roi est avec la substance de ce qui lui est laissé jusqu'à une cérémonie.
Ça, c'est que des os, en fait, qui sont posés.
Des os, des carcasses.
Et les canons, est-ce que ce sont des prises de guerre ou c'était pour
non,
se défendre?
Non, c'était des trocs.
Ah, d'accord, des trocs, ok.
À côté, dans ce bâtiment, le roi allait préparer les soldats avant de les envoyer sur les champs de bataille.
Mais on ne peut pas rentrer dedans?
Non.
Pourquoi?
C'est fermé. À ce compte de la présence du roi et de la cour royale pour des mesures de sécurité pour ne pas connaître des cas de vol.
Et il y en a connu des cas de vol récemment.
Ah. Des vols de quoi?
Vol de...
Non, pas récent. Il vole de Goubassa, ça, la société en 2001.
Ah, le Goubassa, je vais vous montrer l'image.
C'est un sabre qui permet d'orienter la guerre. Ah. Quand on finit de préparer les soldats, lorsque le chef de l'armée soulève, il donne le top aux gens d'aller à la guerre. L'original était ici. Et en 2001, ça a été volé dans ce même bâtiment.
Oh là là.
Donc, quand le roi est venu en janvier dernier pour des mesures de sécurité, on a dû faire une.
Bien sûr.
Ça s'est retrouvé ou pas?
Du tout pas jusqu'à présent. On a dû faire une autre copie. Et la copie actuellement s'est déplacée pour une exposition temporaire.
Mais le problème est que la personne ne peut pas vendre parce que c'est. On va l'identifier.
Eh bien oui, bien sûr.
Donc, il a mis quelque part. Sous son lit, et il donne
ça va ressortir.
Et ce grand bâtiment, c'est la salle de réunion du roi Glele, polyvalente à plusieurs ouvertures. Dans ça, le roi tenait son conseil de trône, il organisait les cérémonies sur le trône. Le bâtiment tel que vous voyez est orné des dessins, appelés les bas-reliefs. Ou ces bas-reliefs jouent trois rôles pour le temple, un rôle décoratif, un rôle de mémoire.
C'est des copies.
Non, fait récemment vers le 20e siècle, au début du 19e siècle. Et ce qui permet d'identifier le palais, c'est le symbole du roi. C'est ça qui est en bas, tout au long du bâtiment. Vous avez vu le même symbole. Quand on chante le palais, le symbole d'en bas chante toutes les fois. Donc, c'est le roi à qui appartient le palais, c'est son symbole qui est mis en bas. Les scènes de guerre qu'il a exécutées sous son règne, c'est ça qui est au milieu. Et après, vous avez les bâtons de commandement, les armes utilisées. On continue.
Oui.
De Gezo, où ce trône est posé sur quatre crânes humains, quatre crânes de rois ennemis. Pour des raisons de domination de suprématie sur ces rois, Gezo a posé son trône sur les têtes de ces derniers dans le but de montrer sa domination sur eux. Quatre crânes de quatre rois ennemis. Il passait par des tabourets de différents hauteurs où il utilise les dos des prisonniers de guerre pour s'asseoir sur le trône. Et c'est pendant les cérémonies agraires qu'on sort ce trône. Donc le roi l'utilise une seule fois par an. Quand nous parlons de cérémonies agraires, c'est des cérémonies qu'on organise pour remercier les dieux de nous avoir donné de bonnes réponses. On a ici un paillon soie. Et c'est un ami portugais, vous êtes dans le dent commun qui a fait don de ceci au roi grec. Il l'a utilisé pendant les cérémonies avant de quitter la terre.
Attendez, pardon, c'est Glélé ou Gezo?
Là-bas, c'est Gezo.
Gezo, oui, d'accord.
1818 à 1858, il a fait 40 ans de gestion du pouvoir. Mais le pain, c'est où Glélé? Et vous avez là l'une des chaussures du roi Gezo, qui est là. Le tabouret d'intronisation du roi Berenzi, le résistant à la conquête française.
C'est pas le même dessin.
Ici, nous avons des recades. Les recades constituent les bâtons de commandement des rois. C'est comme les sceaux du royaume. Ça permet d'authentifier le message du roi. Parfois, c'est le dernier recours que le roi utilise pour convoquer les sujets. Vous avez quelques recades au milieu, un sabre des femmes guerrières. Elles utilisent pour décapiter les prisonniers. Un chasse-mouche sorcier. Composé du crâne de l'ennemi, sa mâchoire inférieure, la queue de son cheval. L'ensemble est utilisé pour chasser les insectes autour de lui. Deux bâtons de chasse à côté de Béancourt, que Gezo utilisait quand il était prince, en prononçant des paroles incantatoires, il tue les animaux dans la forêt. Devenu roi, il les ramène dans le palais ou dans ses amis avec une danse cérémonie. En porcelaine, donc d'un tablier portugais au roi Gezo. Et à côté, c'est une imitation fabriquée par les forgerons de la famille Moutonde. Un service de liqueur, jeu de quatre bouteilles que deux Anglais, Richard et William King, dans les années 1820, ont fait don de cela au roi Gezo. Quelques bijoux royaux, dont l'ensemble est en argent. Quelques cannes royales que le roi utilise en remplacement de la recade. Et en première position, elle est en ivoire. Et ça a été utilisé par le roi Béhanzin. Vous avez sur cette canne un requin. Le roi Béhanzin dit comme le requin qui s'engage à rester au fond de la mer dans le but de renverser les navires des colonisateurs, de les empêcher d'accoster pour la conquête de son royaume. Donc par ce symbole, il montre son mépris à l'invasion française.
Ça, ça lui a été attribué après, alors?
Non. C'est pendant son règne qu'il a le symbole.
Et c'est lui qui choisit?
Oui. Okay. Il choisit le symbole. Le symbole est choisi peut-être si à partir de son nom fort d'intronisation, on peut avoir des symboles réalistes. Dans le cas concret, il aura prononcé des paroles fortes du moins, ou bien il aura fait des scènes de guerre qui vont déterminer un symbole à construire.
Donc au début, il n'a pas forcément de symbole.
Le jour de son intronisation, il doit avoir des symboles issus des difficultés, des circonstances. Son nom doit nécessairement amener à un symbole. Oui, donc, c'est comme le président de la République qui doit prêter serment, lui, mais il prête serment. Donc, c'est le jour de la prestation qu'il prend un nom. Et à partir de ce nom, il y a un symbole qui permet de l'identifier.
Et il y a aussi une devise. Oui. C'est ça. La devise, elle est liée au nom ou elle est en plus?
La devise peut être liée au nom ou ça peut être plus. Ça dépend de l'objectif du roi.
D'accord.
Oui. Le roi Glélé, sa devise, c'est tout autre chose, c'est d'être toujours un royaume au-dessus des autres. Un royaume toujours plus fort. Et pendant les déplacements hors du palais, le roi doit avoir le parasol au-dessus de la tête qui doit le protéger. Et celui qui tient doit accompagner le roi en tournant dans le sens contraire à l'aiguille du nombre, droite vers la gauche. Comme il fait chaud, il y a un peu de poussée, c'est pour ça que je ne tourne pas. Et là, s'il tourne, il accompagne le roi. Si le roi chaud, il doit tourner plus fort. Et ça, c'est un moyen pour brasser les rois. Mais si jamais il fait le contraire, il est décapité. Parce que le sens de la droite vers la gauche marque la continuité et l'immortalité du tempo. Donc, sens d'évolution. Mais s'il fait le contraire, ça veut dire qu'il empêche le royaume d'évoluer. Et celui qui empêche le royaume d'évoluer devient un obstacle du front de l'ennemi. Une princesse qui garde une caravane dans laquelle le roi crache pour des raisons d'hygiène et d'environnement. Tout ce qui appartient à notre camp, on peut les utiliser pour nous faire du mal en retour. Pour éviter ça, les rois crachent juste dans des caravanes. On est là pour recueillir les crachats la nuit pour qu'on en appelle le contenu dans un endroit secret. Une ombre pour les déplacements internes au palais. Cette toile appliquée est une reproduction. L'original avait servi de rideau sous le règne de Gézo. Vous avez son trône qui est posé sur les traces humaines. Le symbole de Gézo est le buffle. On a ici la représentation du premier ministre du roi Louis, habillé dans sa tenue de sortie officielle. C'est lui qui joue pour le don commun le rôle de Gézo. Donc, sous l'ordre du roi, c'est le Louis qui vous capte. Il ne doit jamais venir du roi, mais seul qu'il doit pouvoir trancher. S'il rate, le second coup est destiné à lui. Il n'a pas droit à l'erreur dans les élections de sa nation. Et de ce côté, vous avez les bas-reliefs originaux qui sont là, qui datent du temps des rois, réalisés avec des matériaux traditionnels qui sont exposés là. Ce qu'on a au dehors, ça, c'est réalisé avec des matériaux modernes. Donc ceci, c'est rien que des objets issus de façon traditionnelle. On les a découpés des murs et les conservés là.
Donc la tradition se perpétue, il y a des artisans.
Oui, parce que les rois quand même, ils avaient bien réfléchi. Hein. La tradition est exécutée de façon héréditaire.
D'accord.
Et ils ne prennent pas d'apprenti, non. Si on doit t'apprendre ça, tu peux venir, c'est pas alliance. Si tu es une fille d'une autre famille, tu viens prendre mari dans la famille qui exécute ceci. On peut t'apprendre dans le but que tu vas t'en servir pour nourrir tes enfants. On peut apprendre à un homme lorsqu'il prend femme dans cette famille. Mais issu de simples individus pour venir apprendre ses métiers, non.
Non,
ça ne se fait pas jusqu'à présent. Oui. C'est une tradition.
Donc ça, c'est des originaux de quelle époque?
Du royaume.
C'est dommage parce que tous les documents de médiation, ça nous aurait intéressé. Je vois que dommage qu'on n'aurait pu faire photographier les œuvres. C'est tous les panneaux de médiation nous expliquent ce que c'est le fa et tout ça. Ouais, ça, c'était super intéressant.
Le témoin de la domination française sur les bancs. C'est un bâtiment que les Français ont construit au beau milieu des palais. Bien sûr, le siège de l'administration coloniale. Après avoir exilé les deux derniers rois en 1900, ils ont construit ça au beau milieu des palais. Cette instance est dénommée la cour des canons. Et on a des canons portugais, qui n'étaient rien que des canons dissuasifs, des canons de navire. Mais ils nous avaient apporté ces canons en échange des prisonniers de guerre du royaume. Parce que dans la gestion, à un moment donné, les rois étaient dans le besoin de la main-d'œuvre validée abondante. Et lorsqu'ils étaient en pleine révolution industrielle, voulaient des âmes, voulaient de la. Et les rois avaient besoin des âmes. Et lorsqu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre, donc ils nous apportaient ce canon en échange des prisonniers de guerre. Un canon vaut 15 braves hommes ou 21 jeunes filles en échange.
Il a été exilé.
En Martinique.
En Martinique.
Il reste des rois béantins.
Ils sont venus.
Il est parti tout seul.
Il est parti avec lui.
La cour des reines, et nous avons à côté la tombe des 41 femmes du roi Glélé qui étaient sorties volontaires pour suivre les fruits du roi dans l'au-delà. Raison de leur amour et de leur fidélité, où elles ont été enterrées toutes vivantes.
Oui. Elle a dit volontaire.
Oui, c'est ça.
Non, non, mais et,
si tu veux, ça c'est une pratique qui est héritée de l'Égypte. Hein.
Non,
l'Égypte ancienne où effectivement la cour du roi.
Le sujet.
Il y a un tunnel souterrain qui part de Saint-Anne jusqu'à la tombe du roi Glélé là-bas, dans le but de permettre la communication, un canal de communication. Oui. Vous avez la tombe des femmes ici. La tombe du roi, on croit une vie après la mort. Donc le roi qui a adoré Jésus, son esprit ne peut pas se retrouver seul.
C'était en quelle année ça?
Ça, c'est en 1889.
Ah oui.
Et le toit en paille comme ça, c'est
l'original.
Oui, c'est le toit original.
Avec les dernières cérémonies en cours, nous ne pouvons pas accéder à la tombe du roi.
Oui, oui, j'ai compris.
Donc, on va contourner ce mur et aller dans le second pas.
Et d'abord, tout le monde ne rentre pas dedans, c'est
non,
ça?
Non, les conditions étaient qu'on a leurs chaussures, chapeau, foulard. Et nos femmes, si nous sommes en menstrue, on n'a pas droit à la visite. Également, si c'est un jour du marché local, on ne visite pas les monuments funéraires. Mais comme il y a actuellement des cérémonies,
mais il y a des femmes qui n'ont plus envie de faire des enfants, hein, donc même si elles sont en menstrue, elles peuvent rentrer dedans. Le ciel est en menstrue, elle dit, mais je ne suis pas menstruée.
C'est
ma mère, c'est pas ça. Tu as donné ça à Maroua, c'est ça, alors qu'on est trois mecs ici, je comprends pas.
Je suis en train de chercher pour
vous. Choisis le plus jeune.
C'est magnifique.
Ça, ce sont des manques bio.
Ah
oui, on change beaucoup.
Ce
sont des
manques
bio.
Oui, c'est ça.
Sans produit ghanéen, sans additif, sans produit ghanéen, mais sans produit. Oh, ça y est.
En fait, ce qui différencie, c'est ça. C'est ça. Et pourtant, lui, c'est en
l'air. La coupe intérieure du palais de Guézo. Le lieu d'organisation de cette cérémonie. Si vous avez la salle de réunion de Guézo, sans savoir ici, c'est le bus. En parcourant le lieu qu'on a retrouvé de l'autre côté, la plus qu'on a changé de palais. Et au fond, vous avez là-bas, à côté, là, la salle de tour de Guézo. Et quand Guézo dirigeait le Dan Kobe, c'est là où on déposait son trône qui est posé sur les crânes humains et quelques richesses venant de lui. Au fond, on a le temple du roi Guézo, construit pour le repos de son esprit. Nous allons visiter la salle de réunion aussi, aller dans le temple, mais de l'autre côté, on ne pourra pas y accéder. Parce que là, ce n'est pas pour raison de sécurité, c'est pour raison de sécurité, mais pour vous les visiteurs. Parce que le plafond de ce bâtiment est en train de s'affaisser. Donc pour des mesures de prévention, on a ordonné la fermeture en attendant de trouver les menuisiers capables de le réparer. C'est pour ça que dans ce bâtiment, ça marque la fin du royaume. Avec l'arrivée des colonisateurs, on a des tests. Vous avez des photos et des dessins sur le général d'ordre du roi Benazir, pour l'essentiel qui est à l'intérieur. Nous allons visiter ici pour voir les différentes activités qu'on exerce dans le royaume, qui n'est rien d'autre que ce que nous exerçons aujourd'hui. Seulement que l'activité testière pour nous aujourd'hui était la principale activité, la toute première pour les rois. Donc c'est plus tard qu'ils ont développé l'activité primaire. Et l'artisanat, l'industrialisation aussi à la main, c'est survie. Donc on va voir les trois secteurs d'activité, la vie religieuse à l'intérieur, et après on fait un tour là-bas pour finir.
Donc le roi vivait ici ou il avait seulement ses audiences?
Le roi, il peut se reposer ici. Il recevait les audiences, il organisait les cérémonies. Il y a une troisième cour, appelée en fond Gonga, cour d'intimité vraie du roi, qui parle de son domaine privé, qui n'est pas mis en valeur aujourd'hui, là où ses enfants, ses femmes respectent. C'est dans une autre cour. Donc chaque palais, en fait, est composé de trois cours successifs.
Ça rappelle la cité impériale, en fait. Oui. Comme ça, un système de cours, plus officielle.
Oui, elle a plus privé, oui, c'est pareil.
C'est très différent du palais royal de Porto Novo, de Tofa.
Oui, c'est plus, mais c'est pas la même structure.
Ouais,
non, ça n'a rien à voir. C'est un peu différent. Parce que chez eux, leur cours de peuple, c'est tout à fait, c'est pas la même chose qu'ici.
Non,
ils n'ont pas adopté les mêmes structures de construction. Okay. Première activité à m'exposer ici, c'est l'agriculture. Et l'agriculture a connu son grand essor sous le règne de Guézo. C'était pour deux raisons principales. Il y a le ralentissement du commerce des esclaves. Et donc la traite a été abolie sous le règne de Guézo, qui était la principale activité génératrice de revenus, où il était obligé de consacrer ses talents à d'autres activités, Et par son ami Tata Félix de Souza de Vida, il lui a importé des plantes du Brésil et adapté à notre terre qui a favorisé pour le roi le développement. Et la, le premier produit destiné à l'exportation pour le Dangoum était le palmier à huile. Donc nous avons à l'exposition ici les outils agricoles. Donc, la preuve, rien n'a changé, on est à ces outils jusqu'à présent. On a les produits agricoles où les tubercules que vous voyez en exposition là sont réalisés artificiellement. Où on a manioc, pignon, patate douce, yagari, la farine de manioc, le maïs, le sorgho, les noix de l'huile.
Moi, c'est ça, c'est pas artificiellement.
Non, les céréales ne sont pas artificielles.
D'accord.
C'est les vrais.
Les tubercules sont.
C'est son manche.
Au Brésil, beaucoup aussi.
Le gari, non?
Ouais, ils appellent ça.
C'est la transformation de manière qui donne ça.
C'est ça.
Où on fait la, on peut faire la pâte, on peut frire, on peut mélanger avec de l'huile, on peut mettre dans l'eau, carré, on peut faire un peu de charge.
Et puis dans la bouteille,
c'est l'huile de palme,
c'est ça. On avait déjà l'huile de palme à cette époque.
Oui. Et la deuxième activité ici, l'artisanat, où là, le coup occupait également une place de choix. C'était vraiment florissant dans le Guadeloupe.
Ouais.
Et ça ne constituait pas nécessairement de la transformation des objets. Il y a les chansons, les danses royales qui constituaient les rituels, les contes et les proverbes, des grosses paroles pour le roi, qui constituaient aussi les, l'art de coup qui permet la pérennisation de la culture pour le Guadeloupe. Là, il y a une exposition ici, vous avez les outils artisanaux réalisés comme les recadres. Bâton de commandement, les parures, parce que le roi est le maître des terres. Il doit se faire beau à chaque fois dans ce déplacement. C'est pour ça qu'il doit avoir beaucoup de bijoux. Et vous avez ici les ricades, je dis les ricades, les hôtels portatifs,
oui, les assemblées,
qui représentent l'esprit des anciens rois. Et là, nous avons une cascaillette réalisée à la main pour la musique dans le palais, parce que le roi ne doit pas être ennuyé. On peut lui faire la musique de temps en temps. Une calebasse qui permet de contenir les objets précieux. La décoration est faite à la main. Et une photo de ce côté qui montre une scène de construction d'un bâtiment. Ici, nous avons la forge où le soufflet. Tout un dispositif d'instruments que les forgerons utilisent pour fabriquer les objets en métal. Dernière activité en exposition, mais comme Thierry a dit, la première départ de commerce. Et c'était basé sur la vente des prisonniers de guerre. Vous aviez là des ancêtres d'origine étrangère en faïence apportés pour échanger des prisonniers. Les corées qui servaient de monnaie d'échange, la grosseur vaut le coup. Voici une chaîne en exposition là qui permet de relier les esclaves. La photo des esclaves enchaînés là-bas, et ça a été, ils ont été enchaînés par les métisses arabes. Et vous avez ici un pistolet, arme de défense personnelle, un fusil de chasse ou de guerre. Attention à la
matière intéressante. Métis arabe, c'est quoi, c'est métis africain, Afrique de l'Ouest et arabe ou...
Non, c'est les... Comment je vais m'expliquer? Les... Pour les Occidentaux, c'est rien que les Occidentaux, mais qui ne sont pas de souche uniquement arabe, c'est des métis. Okay. Mais le métissage est fait entre les Occidentaux, c'est pas lié à l'Afrique, non. Okay. C'est eux, les gens, les Portugais qui étaient venus, les tout premiers explorateurs qui étaient là dans le but de conquérir. Les premiers Arabes ont eu des relations avec d'autres Blancs qui ont donné des êtres humains, dont ceux-ci. Les grands commerçants ont participé à ce commerce dans ces sur la maison. Ici nous avons les attributs du phare.
Ah, tout le monde se presse.
J'ai la toile. Ça, c'est l'ensemble. Ça, c'est la chose.
C'est le chapelet. Et là, ce chapelet existe de trois formes. Il y a deux secondaires, un principal. Vous voyez tous les éléments ici dans la composition du fa. Et c'est compte tenu des questions qu'on fait le choix de ces éléments. Vous comprenez?
Je vais expliquer, pardon.
Je reprends. Là, vous avez les chapelets. Ces chapelets existent en trois. Il y a un principal, deux secondaires. Il jette d'abord les deux secondaires, il a le principal à main, après il jette le principal. Donc, de ces trois, il vous interprète. Maintenant, si l'interprétation a besoin des particularités pour la compréhension, on commence par faire le choix de ces éléments que vous voyez là.
D'accord.
Vous comprenez? Ça, c'est le plateau de la divination. Quand il finit, il jette les chapelets, le signe qu'on sort, le chapelet qui est là. On le met en poudre. Et on étale ça sur le plateau, on commence par poser les signes. Là, vous avez des crochets qui font appel à l'esprit, des divinités dans la consultation du fa. À l'esprit de ceux qui ont déjà conçu les maîtres du fa.
Ils comprennent les auteurs, quoi, les anciens.
Donc, même pour aller à la guerre, le roi consulte pour savoir si cette guerre sera perdue ou gagnée d'avance. Et de ce côté, on a quelques divinités du peuple. Une requête qui porte le symbole de la divinité Ferviosola. Maurissa, ça c'est la statue de la création du monde et des richesses. Les rois ont cru qu'au-delà, il y a quelque chose qui a créé le ciel, la terre, les richesses qui se trouvent. Il a attribué la création du ciel et la terre à une divinité de face de celle masculine appelée Mao. Les richesses qui se trouvent à une divinité de celle féminine appelée Lisa. Les deux ensemble, ça fait Mao Lisa, le côté féminin déterminé par le saint. Les statuaires rituels Botio qui interviennent lors des rituels d'exorcisme de maladies mortelles pour chasser les mauvais sorts ou les mauvais esprits d'une personne ne possédait pas ces statues. Enfin, on a la première divinité du panthéon fond, le Leb. Érigé à l'entrée du royaume, ça veille sur le roi, les habitants et les habitations.
Et il est mal.
Oui. Oui.
Toujours mal.
Toujours. Ce qui lui permet de bien jouer son rôle social réside dans son phallus, qui est toujours debout.
Ah, d'accord.
Signe de vérité de productivité. Avec la floraison des religions étrangères, aujourd'hui, on lui a attribué tous les méfaits du monde. Mais il est créé dans le but de protéger le royaume. Si vous avez des idées négatives pour aller faire du mal à quelqu'un, en passant à côté de lui, il anéantit déjà votre force. Si vous avez des difficultés, vous pouvez aller vers le Legba pour lui demander son aide dans l'accomplissement de votre problème. Et vous avez l'obligation de lui faire une promesse. Je veux avoir peut-être un enfant. Quand j'aurai l'enfant, je vais t'apporter un mouton. Tu as l'enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 10 ans, 20 ans. Si tu n'apportes pas le mouton, il va créer des isolés dans la vie de cet enfant. C'est à cause de ça que les gens disent aujourd'hui qu'il fait du mal. Mais une promesse non tenue, ça a toujours des conséquences. Guizhou. Le mur original à l'intérieur, tel que je l'ai décrit de l'autre côté, c'est construit à base des richesses de vent, où le repos du son de l'autre. Ceci est réalisé dans le but de sauvegarder l'original. L'entrée est bas, obligeant les personnes à s'incliner, à rendre hommage à l'esprit de roi avant de rentrer. Donc, si vous voulez, nous allons rentrer sur ces conditions. Continuez le mur original et revenez par la main. C'est sans
condition. C'est sans condition. On peut rentrer dedans. Pour aller regarder. Ah oui, on rentre. Ah, il n'y a pas de souci.
On s'incline.
Il y a pas de souci.
Là, on contourne le mur original et on revient par la même porte. Ce que vous irez contourner, c'est le mur original, érigé à base de toutes les richesses du roi pour le repos de son esprit.
Il reste au ville. Tu vas tomber dans le tour ou quoi?
Plus bas ou dit plus bas
C'est jeune en fait.
Il y a deux temples pour deux personnalités du roi spirituel et physique. Et vous allez constater que les deux temples ont une porte commune à l'intérieur. Et lorsque la prêtresse, celle qui rentre, pendant la cérémonie, il y a une prêtresse qui doit rentrer au niveau du temple pour faire appel à l'esprit du roi. Donc elle ne sort pas par la porte d'entrée. Elle fait le tour des deux temples. Donc lorsqu'elle rentre, ici maintenant, elle contourne dans le second temple avant de sortir. À l'intérieur, vous allez voir deux portes. Mais les deux temples ont une porte commune à l'intérieur.
Ça veut dire que le sens de circulation a un sens.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans les deux temples? Pardon. Les deux temples, c'est pour le roi?
Oui, c'est pour le roi.
Et la reine, elle est pas, elle a son propre...
Ça, c'est le temple de la reine. Non, c'est pour la reine, la mère du roi Glélé. Glélé a construit ces deux temples pour honorer à l'esprit de son père et de sa mère.
Ça, c'était à la base, c'était quoi au-dessus? C'était de la paille ou
oui, au départ, c'était la paille. Les bois que vous avez vus avaient servi le support de la charpente. Et la toiture était en paille dans le temps.
Et tout était de la paille?
Oui, tout était de la paille. C'est plus tard, on a commencé par faire les trucs. Maintenant, nous allons évoluer dans la première cour.
Thank you.
ça a été transformé par son ami Tata Félix de Souza de Mida. C'est notre départ qui avait même pas comme le bureau des entrées par lequel vous avez pris tout à l'heure. Mais Tata Félix de Souza de Mida a transformé l'entrée principale de Guézon en une maison à étage. L'étage en fond veut dire Singo. Quand on dit musée d'Abomey, Singo dit. Ce n'est pas le grand bâtiment de Guézon. Au sur l'étage, pendant les cérémonies, le roi restait pour pouvoir s'adresser à son peuple qui est devant l'esplanade de son palais. Pareil chez Tata aussi, il a construit son entrée principale en étage. Mmh. Vous êtes assis les Tata, vous êtes à Singoumé, qui veut dire l'intérieur de l'étage. Vous êtes chez son ami Geza Boumé, vous êtes à Singoudi, qui veut dire sur l'étage.
Sur l'étage, c'est là, c'est là. C'est là où il jetait les offrandes, pour le peuple,
Pendant les cérémonies. Mmh. Et à côté, le petit bâtiment qui est là, c'est là où le devin consultait le fa pour le roi Guézo, qui sert aujourd'hui le bureau du gestionnaire du site.
D'accord.
Donc nous sommes à la fin de notre parcours de visite. Dans un dirigeant de l'autre côté, on a une boutique souvenir. Il y a des livres et des cartes postales à l'intérieur. Vous pouvez faire un tour. Et après, il y a un livre qui résume notre parcours. Il y a des livres dans lesquels il y a l'histoire et le parcours migratoire du roi. Et les 41 lois du roi Wibadja également. Donc vous allez faire un tour dans la boutique. Et après, vous allez vers le village artisanal, peut-être pour les achats de ce bout.
De restituer les objets, les 26 objets du trésor du Dahomey. Vous allez les accueillir ici. Comment on s'est accueilli cette décision et
non, nous on a accepté la décision, on a applaudi. C'est déjà un pas vers. Bon, ce qui est sûr, s'il reconnaît, il vous donne une partie, ça veut dire au fil du temps, peut-être vous aurez tout. Parce que non, c'est pas. 26 objets parmi tant d'autres. 26, c'est déjà un chiffre minimum dans ce qu'il veut, dans ce qu'il possède pour le royaume. Mais on voit que c'est déjà un pas dans l'évolution des relations diplomatiques. Ces objets, quand ils vont nous les apporter, je suis en train d'apprendre qu'ils vont d'abord aménager le musée d'histoire de Mida.
D'accord.
Et un stand un peu international pour abriter d'abord les objets avant de commencer les travaux sur la cour des Amazones pour construire un musée moderne mais à l'architecture traditionnelle.
D'accord.
Il va abriter ces objets pour une exposition bien quand même.
Touristique.
Touristique.
Est-ce que c'est patrouillé par l'UNESCO ça?
Le site? Oui, le site est classé.
Les restitutions d'objets
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais le site, lui,
le site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ça qui fait ralentir les travaux en quelque sorte. Parce que l'UNESCO a les normes qu'on doit respecter en matière architecturale pour la sauvegarde du titre de patrimoine. Mais nos dirigeants ne taillent pas d'importance à ça. Donc chaque fois qu'ils font les maquettes, le plan, l'UNESCO ne valide pas. C'est pour ça qu'ils ont un peu de difficulté pour entamer les travaux.
Les Chinois ont dit non, on va le faire.
Oui.
Ils sont prêts.
Ils sont prêts, mais ils ne vont pas respecter les normes de l'UNESCO. C'est pour ça qu'ils se tuent un peu les
travaux. Oui, mais ils sont prêts.
Quelle est votre position sur le processus de patrimonialisation, c'est-à-dire le fait de considérer un objet sacré comme une œuvre d'art et de le décontextualiser du rituel pour l'exposer? Comment vous vous situez par rapport à... Parce que là, on a vu en fait beaucoup d'objets rituels royaux qui sont en situation d'exposition. Parfois, ce sont des objets qui sont destinés à être cachés et révélés seulement dans des cérémonies, dans des rituels. Et donc, le fait de construire un musée, par exemple, ça peut poser quelque chose par rapport à... Je voulais savoir quelle était votre position par rapport à ça.
Non, moi, ma position, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à cela et ça permet quand même à la nouvelle génération d'avoir connaissance de ce que ceux qui nous ont précédés nous ont laissé comme patrimoine. Ça fait partie des patrimoines. On ne peut pas dire, aujourd'hui, le temps a évolué et on ne peut pas dire tout ce qui était conservé, gardé dans le temps ancien, doit être toujours le cas. Parce que tel que vous dites ces objets, si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas avoir connaissance. Mais aujourd'hui, avec un musée, c'est un domaine où on doit exposer les trucs anciens dans le but de donner une attraction touristique. Je dis que s'il n'y a pas le musée d'Aboumé, vous ne connaîtrez pas Aboumé. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ça. Il y a aussi l'aspect mystique que nous devons faire l'effort de un peu faire descendre, d'élever pour ne pas tout exposer. Sinon, il y a des objets où pendant les cérémonies, le roi qui est là, il doit faire appel. Il fait la demande qu'ils sont à la réserve, on lui fait ça. On sort ces objets parce qu'il a besoin de ça pour pouvoir faire les cérémonies. Vous comprenez, obligatoirement, les hôtels portatifs, il fait une demande bien écrite, il adresse aux gestionnaires. Et on lui sort ces hôtels qu'il doit utiliser. Je dis que mes enfants, s'ils ne viennent pas au musée, ils ne reverront pas les hôtels portatifs. Non? Parce qu'aujourd'hui, surtout étant même natif d'Aboumé, nous avons tous peur d'aller dans nos maisons familiales pour d'autres raisons que nous connaissons, vous comprenez. Mais ces objets, c'est fait dans les maisons familiales. C'est conservé là-bas. Mais si c'est en exposition au musée, je peux amener mes enfants du telle chose, voici ce qu'on appelle. Malgré que c'est rituel, malgré que c'est cérémonial.
Malgré que ça existe dans chaque famille.
Malgré que ça existe dans chaque famille, on les a. S'il n'y avait pas l'idée, à un moment donné, de récupérer ces objets au niveau de la famille royale et de les exposer, nous n'aurons pas de l'histoire du Don Comé. Ça ne peut que être écrit. Et le musée qui est là, ça donne quand même... C'est un domaine d'emploi. Parce qu'il y a les gens qui travaillent et tout. Derrière toute une personne, il y a toute une équipe qui est derrière lui, que la personne doit diriger, donner à manger ou autre. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à cela, mais ce qui est capital, c'est pouvoir conserver et garder l'originalité de cet objet, de cet art qui est nécessaire.
Le processus d'exposition ne va pas désacraliser l'objet.
Non, je ne pense pas. Parce que dans le discours, on dit ce que l'objet fait. Vous comprenez? On ne va pas inventer. On a vu Mao Lisa tout à l'heure, divinité de la création du monde et des richesses, je n'ai pas dit autre chose. Si le roi, dans cette cérémonie, a besoin de cette divinité pour les rituels, qu'il appelle en ressources. De toute façon, on sait que c'était utilisé.
Mais il a besoin de ça pour faire les rituels, pour convoquer, pour faciliter ça.
Ça dépend du fond de l'histoire. Quand ils ont fait Gandhi, on a fait sortir plus de 100 objets. Oui, les gens ont mis ça sur la tête, ils se sont promenés comme risques de voir exposés au peuple.
Qui ne sont pas exposés ici.
Qui ne sont pas exposés, c'est dans la réserve. Non, c'est au niveau de la réserve ici, ces objets-là. Mais si c'est une exposition, le roi a besoin de ça, les tons. Quand ils ont fait Gandhi, le roi Agboliago a besoin des 12 trônes. On les a sortis. Et devant la salle des trônes, il a fait son cérémonie, il est assis sur un à un jusqu'au 12e trône. Donc, être en exposition n'est pas synonyme de désacraliser, mais c'est de pouvoir également conserver et de transmettre le message que cela a vécu la plusieurs de générations.
La sacralisation, dans la catégorie
rituelle, c'est sacralisé. Si c'est un simple objet qui n'a pas de rituel, ça n'a pas de problème. Ça n'a pas d'effet de sacralisation, mais lorsque c'est dédié à quelque chose, on le fait sortir chaque fois. C'est là où il y a l'esprit.
Avec ce point de vue, c'est la restitution des objets, ça fait son sens.
Elle est nécessaire parce que Dieu seul, si j'aurai la chance d'aller en France un jour et de voir ça, mais si c'est dans notre pays, ça nous appartient. C'est un talent que nos ancêtres ont déployé pour pouvoir réaliser tout ce truc. On me dit, il y a mon professeur qui m'a dit, si tu vas au Québranly, tu trouves le trône de... C'est 1000 fois plus joli et plus beau que ce que vous avez comme Guézola. Mais le juge m'a dit ça, j'ai tiqué, j'ai dit quand est-ce que je vais pouvoir cotiser pour aller au Québranly et voir ce trône. Et si c'est génie, au moins je verrai, mes enfants auront la chance de le voir plusieurs générations. Combien de Béninois, s'ils ne sont pas dans des institutions, ils sont combien de fonctionnaires pourront cotiser un voyage en France juste quoi. Et notre culture ne nous a même pas inculqué cela.
Notre culture nous a inculqué, c'est la religion.
Non, ça, je ne parle pas de... Non, notre culture ne nous a pas influencé le voyage.
Ah, d'accord, oui, oui, oui.
Le voyage
oui, oui.
touristique ne nous a pas influencé. Si bien que c'est difficile à un Béninois de pouvoir...
Il peut faire construire.
Il peut faire construire, avoir sa voiture, son chez, sa famille, faire sa vie.
Sa maison, faire sa vie.
Tout simplement. Et c'est, mais c'est pas comme les Occidentaux, même quand on va partir de Gaza, on commence par cotiser je vais voyager. Non. Moi qui suis ici, ce n'est pas mon domaine. Très peu, je suis allé au nord plusieurs fois, mais ce n'est pas rapport à mon domaine, ce n'est pas du point de vue personnel, je dis maintenant, je n'essaie pas de me donner ma poche. Je prends deux, si vous descendez à Paracou, je fais les deux pour revenir, non ? Ce n'est pas comme ça.
Et les classes de jeunes Béninois, ils viennent au palais pour justement faire
des visites comme vous.
Il y a une transmission qui se fait à partir des objets.
Oui, parce que dans le programme scolaire, il y a des situations d'apprentissage qui sont liées au royaume. Il y a l'histoire du pays, où pendant les congés surtout, ils viennent avec les élèves qui viennent en expliquant une visite pédagogique. Les étudiants aussi arrivent. Là, parfois, il y a des professeurs qui demandent des visites thématiques. Ils font l'annonce du plan, du thème à aborder. Et là, on sait où les orienter, comment diriger. C'est plutôt le circuit que cela échoue. C'est lié à un thème. On montre les objets et on parle de cela.
Vous êtes nombreux dans le musée palais
Pour le personnel. Toutes catégories confondues, on est bien sur le site. Et pour les guides, nous sommes 8. Et parmi les 20, c'est seulement 6 qui sont à la charge de l'État. Nous autres, nous sommes à la charge du site. Et depuis la décision de
du
gouvernement, on est comme ça pour les observer.
Non, non, c'est bon. Vos arriérés sont là. On va vous payer.
On est sûr.
Ah.
Et bravo, merci. Je vous en prie.
Comment complet on viendra vous voir pour les frais.
Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait l'étude en histoire à l'université. J'ai eu une maîtrise en histoire.
Sur l'histoire.
J'ai travaillé sur le site, l'importance historique et socio-culturelle des musées. Ah oui. Et le cas du musée d'Avignon.
Et on peut trouver votre mémoire.
Oui, mais.
Un rapport.
Non, c'est pas un rapport, c'est un
mémoire. Un mémoire. Ah, la maîtrise. Oui. Ah, d'accord. On peut la
voir.
Ben avant, vous ne déposez pas
la maîtrise. Oui, mais je n'ai pas fait un dépôt à nous. Ah,
d'accord. On a fait papier quand même.
Oui, c'est un dépôt papier, mais à la maison, c'est pas ici.
Le muséum, qui était le temple des muses, et donc avec un espace qui était un espace sacré et rituel dans l'endroit.
Si on remonte vers la définition même, de ça. Le concept, la notion de musée. Dans une définition notionnelle, effectivement, ce caractère sacré, c'est pour ça que je le dis. Et quand tu trouves même un bébé sur la voie, il va te dire, quand il y a voie de musée, sans objet.
Oui.
C'est normal, c'est ce que l'on sait.
Oui, si on a l'objet pour la sauvegarde de cette culture, parce que l'Afrique, où je parle du royaume du Dankoumé, c'est plus une culture traditionnelle, une transmission orale. Là, à travers cet objet, on est obligé de le conserver dans le but de toujours garder la tradition. On a du tout à l'autre pour passer. On est obligé d'aller faire copie de l'objet, déposer en exposition. Et on dit aux gens, c'est une copie, c'est pas l'original. Mais ça a joué quel rôle dans le royaume? Vous comprenez? Donc là, quand la personne veut, il sait que j'ai vu telle chose qui avait joué, ou les rois avaient ça, qui a joué tel rôle.